CFM Villefranche, le mag.
Vous venez de nous rejoindre à la suite de cette édition du magazine d'actualité avec en studio, comme annoncé, Christal Kuhn et Régis Blanchard. Messieurs, dames, bonjour.
Bonjour.
C'est notre traditionnel rendez-vous avec l'association Africa Jar dans les starting blocks pour cette 23e édition du 21 au 24 juillet. Et la programmation se façonne. On a évoqué la programmation musicale en toute fin d'année, qui était quand même une grosse exclusivité, en tout cas sur le plan organisationnel, de pouvoir livrer très rapidement des noms. On a parlé du pass Noël, au mois de janvier des bénévoles et de l'appel vibrant à bénévoles. Depuis le 17 février, on peut s'inscrire sur le site et participer à l'aventure humaine que nous propose l'association. Et puis Régis Blanchard, sur l'aspect littéraire, on parle beaucoup de musique pour Africa Jar, mais le grain littéraire occupe un espace qui est conséquent. Il y a du cinéma aussi, j'imagine qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais aujourd'hui on va faire un point sur le grain littéraire. On commence par quoi, Christal, qui a, comment dire, le conducteur de cette intervention en tête? L'appel vibrant à bénévoles, ça commence, ça prend?
Allez, on commence par les bénévoles. Oui, bah écoute, on a lancé ça le 17 du coup.
17 février.
Le 17 février, donc toutes les inscriptions sont faisable sur le site internet. On essaie de faciliter un petit peu la chose. Donc il y a un petit questionnaire tout simple sur africajar.com et vous pouvez vous inscrire. Donc on cherche 250 bénévoles.
Ah, 250 pour le festival. Moi j'étais à 200, mais 250, c'est dire l'ampleur que prend le festival. Hein. Et puis les intentions pour cette 23e édition. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que bénévole? Les loges, c'est plutôt sympa. On peut s'occuper du bar-restauration.
Après, il y a plusieurs postes. Donc c'est ça aussi qui est bien, c'est que sur le site, on a mis une catégorie. Vous pouvez choisir les postes qui vous intéressent le plus. Donc bon, il y a les loges, évidemment. Le carré VIP aussi, mais il y a aussi la cantine, parce qu'il faut nourrir tout ce petit monde et les artistes également. Il y a plein de choses, il y a plusieurs postes à pourvoir, donc vous pouvez choisir sur le site.
Il y a le montage, le démontage aussi. Il y a une grosse infrastructure, hein, la scène au théâtre de Verdure, la billetterie, la sandwicherie, la boutique, la liste de l'ensemble des postes. On peut même être volant, on peut passer d'un poste à l'autre fonction des besoins, puisque c'est inhérent à ce genre de festival. On peut avoir
un peu touche-à-tout, il n'y a pas besoin de compétences particulières, juste de la bonne volonté, de la bonne humeur.
Qu'est-ce qu'on gagne, la question bête, qu'est-ce qu'on gagne à être bénévole à Africa Jar?
Alors déjà, vivre un petit peu l'expérience particulière qui est de vivre le festival de l'intérieur. Et après, naturellement, pour les bénévoles qui donnent de leur temps pour ce festival, ils ont l'accès aux concerts.
D'accord, c'est aventure humaine aussi, c'est une expérience, j'imagine, pendant 4 jours. Bénévole, Régis, aussi, pour la première année, cette année?
Complètement, pour la première année, en fait, j'ai rejoint Africa Jar pour m'occuper de la partie littérature, voilà, et entièrement bénévole. Donc c'est une belle aventure. La littérature, effectivement, tu le disais tout à l'heure, elle a vraiment sa place, en fait, dans Africa Jar. La littérature africaine, elle a une histoire, en fait, puisque de temps immémoriaux, j'allais dire, il existe une littérature africaine. Un des plus grands exemples qu'on peut retenir de la littérature africaine, c'est les Égyptiens, puisque les hiéroglyphes, en fait, sont déjà les premières écritures africaines. On a perdu énormément à cause de l'oralité, en fait, puisque la littérature africaine, c'était surtout de l'oral, mais depuis le XXe siècle, en fait, il y a vraiment un courant littéraire qui s'est installé un peu partout en Afrique, essentiellement dans la langue du colonisateur, du fait que les écoles et au pays, et après, par exemple, pour le Sénégal, etc., les gars venaient, en fait, en France, à l'université. Donc, la littérature, elle s'est d'abord développée dans la langue du colonisateur, dans un premier temps avec la forme des colonisateurs, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment dans la reproduction, en fait, les auteurs du début du XXe siècle, dans la reproduction de la forme littéraire continentale, on va dire. Et puis, petit à petit, ils s'en sont complètement affranchis. Et aujourd'hui, on a une vraie littérature africaine, jusqu'à des auteurs qui écrivent en langue africaine, qui ont carrément oublié, en fait, le portugais, le français, l'arabe, etc., et qui écrivent vraiment dans les dialectes, les langues africaines. Ça donne quelque chose d'assez intéressant, quoi, je veux dire. Et puis surtout, au fur et à mesure, ils se sont complètement affranchis des styles et des références, et ils ont créé les leurs. Et ça finit cette année par un prix Goncourt, ça aurait été beau, un prix Goncourt de littérature, donc c'est fantastique. Quoi.
Et inscrit au programme, on va en parler aussi, quels sont les arbitrages qui sont effectués pour accueillir les auteurs sur le festival Africajar. Et puis moi j'aimerais revenir sur une chose, première participation en tant que bénévole, mais en même temps c'est le prolongement d'une activité professionnelle à la tête de la commission littéraire pour le festival Africajar, la bonne personne en bonne place, hein, c'est ce que j'ai dit quand on s'est croisé avant de rentrer dans les studios. C'est important aussi, chef d'entreprise aussi, et oui. Vu la machine qui est Africajar, c'est important de se reposer aussi sur des gens qui ont un réseau, un savoir, des connaissances, voilà. C'est précieux.
Ouais. Oui, c'est vrai que c'est facilitateur, moi je suis éditeur dans la vie de tous les jours, j'allais dire, donc c'est mon milieu, c'est des gens, pour la plupart des éditeurs que je connais ou que je fréquente dans des commissions, au syndicat. Donc c'est vrai que ça facilite pour avoir les contacts, pour inviter des auteurs. C'est beaucoup plus facile, ça c'est certain. Donc oui, je pense qu'effectivement il y a une certaine logique. Dans tout ça, ouais.
Et puis la vision du chef d'entreprise aussi, quand on occupe cette place. Ouais. Laurent Courcel, le président est chef d'entreprise, donc c'est une vision de 150 bénévoles. C'est un gros budget aussi à gérer.
C'est un gros budget et c'est un gros capital humain à gérer. Ouais. Il y a une sacrée organisation. Hein, et c'est vrai qu'on est, quelques-uns aujourd'hui à avoir rejoint Africajar, à avoir nos boîtes, tout simplement. On est chef d'entreprise à côté, donc on a une vision peut-être un peu différente. On reste sur, j'allais dire, les fondamentaux d'Africajar.
Hein.
Y a pas de souci, mais c'est vrai que à la taille qu'a atteint Africajar aujourd'hui, on peut plus fonctionner simplement comme de l'associatif, même si ça reste une association, qu'on est sur la base du bénévolat, etc. Quoi. Voilà. Mais oui, je pense que c'est une vision et une organisation qui est nécessaire. Arriver au stade où on en est aujourd'hui, et notamment pour passer un cap, parce qu'on veut qu'Africajar continue de se développer et grandisse encore. Quoi, hein. Donc, y a un gros effort qui est fait sur la prog en musique, vous en avez déjà parlé. Nous, on a fait aussi un gros effort, en fait, de recrutement, entre guillemets, en tout cas de sélection sur la litté. Et je sais que Joël, sur le cinéma, c'est pareil, il a quelques belles pépites sous le coude. Quoi, donc, ça va être une année exceptionnelle.
Justement, comment s'organise une programmation littéraire? Est-ce que c'est un petit peu comme pour la musique? On va chercher des têtes d'affiches, on va chercher ce genre de choses, ou comment ça s'organise et comment on hiérarchise notre programmation, ou comment c'est hiérarchiser la programmation?
Alors évidemment, l'objectif est dans un premier temps déjà de regarder qui sont les auteurs qui ont des nouveautés. Et puis évidemment leur notoriété, on a besoin de têtes d'affiches, mais pas que. Un peu comme sur la musique, en fait. Donc cette année, à la littérature, on va trouver des grands noms, des gens qui sont installés depuis quelques années, des gens qui viennent d'être consacrés, primés, voilà. Mais aussi des gens qui sont en devenir. Il faut pas oublier qu'en 2016, Mohamed Bougarsar, il était à Kajar, déjà, pour son premier roman. Il était invité. Et on l'avait présenté à l'époque comme un des espoirs de la littérature africaine. On n'était que deux festivals en France à l'avoir invité. Et il se trouve que cette année, il a eu le Goncourt, donc, enfin, en 2021. Donc voilà, c'est une belle aventure. Et donc, voilà, sans tout dévoiler, enfin, mais on peut le dire, il viendra nous rendre visite cette année, puisqu'il s'est rappelé qu'on avait été là à ses débuts pour le soutenir. Quoi. Et j'ai trouvé que le geste était admirable.
Et d'ailleurs, il parle de Kajar hein, dans son livre.
Complètement, dans son livre, sur la deuxième période, puisqu'il est organisé en troisième période, en fait, c'est assez rigolo. Il cite effectivement Kajar à plusieurs reprises. Et dans le cours de son récit, en fait, Kajar devient un refuge en temps de guerre. Donc, c'est pour dire comme il avait été bien accueilli et comme il en a gardé un bon souvenir. Donc, j'ai trouvé ça fantastique, oui, complètement.
Et voilà. Un prix Goncourt pour cette édition 2022 du Festival Africajar, mais un autre également sera présent.
Oui, alors on va avoir également Tahar Benjelloul, qui va venir et qui a eu le prix Goncourt en 87, qui a été candidat à l'Académie française, et qui publie, c'est un des rares auteurs aujourd'hui qui peut publier de la poésie dans la collection Blanche chez Gallimard. C'est une plume reconnue, quoi, hein, qui est très très investie dans le cinéma, dans la littérature. Enfin, c'est vraiment.
Pour tout le monde, qu'est-ce que ça représente la collection blanche chez Gallimard ?
Alors, la collection blanche chez Gallimard, c'est vraiment la j'allais dire l'autoroute, c'est vraiment la collection reine. Hein. C'est les livres que tout le monde connaît, ces livres blancs qu'on voit chez le libraire, avec juste le logo Gallimard dessus. Et c'est vraiment les têtes d'affiche, les locomotives de l'édition, enfin des auteurs, qui se retrouvent dans la collection blanche. Quoi. Sinon, ils sont sur des sous-collections ou sur des sous-maisons d'édition. Mais quand on est dans la collection blanche, c'est la voix royale, ouais, on peut le dire comme ça. Voilà, et c'est vrai que de la poésie en plus, quoi.
Oui, atypique pour voilà, le style d'écriture.
Voilà, c'est totalement atypique. Bon, on sait que Tahar Ben Jelloun, c'est aussi un poète, mais de la poésie dans la collection blanche, c'est très rare, quoi, franchement.
Pour tout le monde, ça s'organise comment le grain littéraire? C'est sous un chapiteau? C'est dans un lieu en particulier? C'est comment ça s'organise? Des séances de dédicaces, des lectures, d'extraits, des rencontres? C'est comment ça s'organise?
Alors, il va y avoir, en fait, en termes d'implantation physique... on cherche encore un peu le modèle, très franchement. On veut l'installer place de l'Église. Alors, pas parce que j'y suis, mais parce que la place de l'Église... En fait, notre volonté, elle est de revenir un peu au fondement, aux racines d'Africajar. À une époque, les tout premiers Africajar, où ça occupait le village intégralement. Et puis, d'année en année, en fait, ça s'était un peu décentré. Ça s'était... Voilà. Et du coup, c'est vrai que pendant... Africajar, notamment tout ce centre de la Bastide, était quelque peu délaissé. On avait les comptes à un bout, et puis au milieu, rien du tout. Donc cette année, on voudrait vraiment refaire un parcours, en fait, dans Kajar, avec les différentes propositions qu'on peut avoir pour le public. Donc, en principe, on va s'installer place de l'Église. Sous tente, c'était un peu compliqué, notamment pour les livres. On l'espère pas, mais on n'est jamais à l'abri non plus d'un orage, voilà. Et des livres, le papier, ça aime pas beaucoup l'eau, sauf quand on le fabrique, quoi. Mais une fois qu'il a été séché, c'est mieux de le mettre à l'abri. Donc, on cherche une solution en dur. Donc, en fait, le dernier point qu'on envisage aujourd'hui, c'est de mettre deux Algeco pour faire, en fait, une librairie éphémère, puisqu'on a toujours une librairie éphémère. On est la plus grosse pendant les 4 jours du festival, on est la plus grosse librairie africaine en France. Mmh. On a plus de 800 références. C'est quand même incroyable. On fait ça avec le livre en fait de Figeac, qui est notre partenaire historique, hein, vraiment. Et c'est un super gros boulot, quoi. Donc évidemment, on a besoin de mettre les livres à l'abri. Et en parallèle, il va y avoir effectivement des signatures et des débats. On va faire 3 débats, en fait, un par jour, sur des thèmes assez divers et variés que j'ai pas encore tout à fait arrêté parce que j'ai des fils conducteurs, en fait. C'est un peu comme ça aussi que je sélectionne, que j'ai fait ma sélection. C'est-à-dire que j'ai lu les ouvrages et j'ai essayé de trouver des fils conducteurs où on pouvait faire que les gens, sur scène, auraient des choses à se dire, à se compléter, à s'opposer, des fois. Donc, on va parler, je pense, cette année, parce que c'est en plus un sujet très chaud ces derniers jours, de l'homosexualité en Afrique, qui est un problème. C'était donc maintenant l'avant-dernier livre de Mohamed Bougarsar. Il l'abordait vraiment de pleine face, hein, où justement, c'était l'histoire de ce cadavre qui avait était déterré et traîné partout dans le village parce que, en fait, c'était un homme-femme. Et voilà, donc déjà, c'était déjà un sujet. Et là, on voit en ce moment ce qui se passe un peu avec ces manifestations qui demandent carrément la criminalisation. C'est déjà, dans la plupart des pays d'Afrique, c'est déjà un délit. Mais aujourd'hui, on demande la criminalisation. Donc, c'est-à-dire que les gens, dans certains pays, ça pourrait aller jusqu'à la peine de mort, quoi. L'homosexualité, etc. Donc, bon, ça fait partie d'un peu... Et on a quand même une BD, en plus, cette année, qui traite de l'homosexualité féminine en Afrique. Enfin, voilà, ça fait résonance. Et il y a des auteurs qui l'abordent plus ou moins, alors, soit dans les ouvrages récents, soit dans leurs ouvrages passés. Et je trouvais que c'était intéressant de remettre ça un peu sur le devant et de provoquer un peu une discussion autour de ça. Ça peut être assez sympa. Et il y a plusieurs générations, c'est ça aussi que moi, j'essaye de faire. J'essaye, dans ma sélection, d'avoir plusieurs pays. Donc aujourd'hui, on va avoir des gens du Togo, du Sénégal, du Cameroun, du Tchad. Enfin, voilà, c'est assez varié. Et puis, en parallèle, j'ai essayé aussi d'avoir différentes générations. Donc, on a des trentenaires, on a des cinquantenaires, et puis on va avoir des gens qui sont plus, j'allais dire, issus de la France-Afrique. Voilà. Mais justement, c'est là où c'est intéressant. Ils n'ont pas tous la même vision, ils n'ont pas tous le même vécu. Et quand on va les mettre sur scène pour qu'ils discutent ensemble, c'est là où ça peut provoquer justement l'effervescence. Et puis, ce qu'il y a de bien à Cajard, moi, ce que j'ai toujours apprécié dans la partie grain littéraire, c'est cette proximité qu'il y a entre les auteurs et le public. Au beau jour, les auteurs sont assis dans le public et on discute comme si on était en train de palabrer sous un baobab, quoi, clairement. Non, mais c'est ça, c'est vrai que toi, ça te fait sourire, Cristal.
Passionnant et passionné, hein, Régis Blanchard, la bonne personne en bonne place, effectivement, pour cette 23e édition du Festival des Cultures Africaines, Africajar, du 21 au 24 juillet. Pour en revenir à la littérature et à Mohamed Bougarsar, je crois qu'il a calé, lui, personnellement, sa venue à Africajar. On sent qu'il tient à être là, en dehors de toute obligation de sa maison d'édition. Hein,
c'est vraiment ça, et c'est assez rigolo, hein, vraiment. Il y a quelques auteurs, alors lui en fait partie, vraiment, où il a dit, c'est vrai que le Goncourt, il est super sollicité, il est demandé de partout. Pour lui, il y a une effervescence d'un seul coup, c'est tant mieux, quoi, hein, je veux dire, il le mérite. Mais il leur a dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais moi, ces gens-là, j'ai envie d'y retourner, donc vous me calez ce que vous voulez avant, vous calez ce que vous voulez après, mais là, c'est du temps pour moi, je vais à Cajard.
Et alors, il faut le dire aussi, quasi tous les auteurs, même tous les auteurs, viennent sans contrepartie. Hein.
C'est totalement ça. Hein, totalement ça, c'est des gens qui, vraiment, nous accompagnent dans la démarche, par justement notre esprit d'ouverture, de proximité. Ils savent qu'ils vont trouver en fait un contact avec les lecteurs, avec le public, qui va être différent. Et ils viennent sans contrepartie, on prend en charge leur déplacement, on les héberge. Enfin, je veux dire, c'est logique, quoi, hein, c'est quand même le minimum. Mais ils viennent sans contrepartie, simplement pour participer à l'aventure. J'en ai un que j'ai eu au téléphone. Nimrod, pour ne pas le nommer, qui est un auteur quand même connu. Et il me dit, écoute, j'ai tellement envie de venir, mais c'est pas de bol, parce que je viens de signer un contrat, je pars en résidence d'auteur en Colombie pour 3 mois. Ah, je lui dis, ouais, là, c'est quand même pas bien et tout. Il me dit, mais cela dit, ça commence le 21. Je lui dis, oui. Ah, bon, mais moi, je pars le 23. Donc, si tu peux m'organiser un voyage pour que je fasse l'aller-retour, je viens le vendredi, je fais la signature, une conférence le vendredi, et puis le samedi, je reprends le train, peu importe l'heure, et puis j'irai prendre l'avion pour la Colombie après. C'est fantastique, quoi, quand on vit ça. Et le gars, tout ça, il le fait juste parce qu'il a envie d'être avec nous, quoi, de voir ses confrères, d'être dans cette ambiance, vraiment, et de venir partager avec le public. Quoi. Moi, j'ai trouvé ça fantastique, hein, vraiment.
J'imagine que le programme pour Le Grain littéraire va être édité sous peu. On va pouvoir avoir quelques bribes sur les réseaux.
Je peux déjà donner quelques noms, hein. Oui. Y a pas de problème. Donc, on va avoir Théo Ananisso, qui vient du Togo. On a Roland Collin qui vient de France, qui lui est un habitué, il vient très régulièrement en fait. C'est un ancien administrateur du temps des colonies, c'est un administrateur français de l'État français, hein, du temps des colonies, mais qui est aussi un anthropologue, qui connaît très bien l'Afrique. Donc quand je disais, voilà, des gens de la période France-Afrique, il en fait partie. Voilà, on va avoir Gaston Poléfa, qui vient du Cameroun, qui est prof d'université, et qui est un grand prix littéraire d'Afrique noire. Enfin, voilà, c'est pareil, c'est quelqu'un. Armelle Faure, qui est vraiment très intéressante. Elle nous a fait un bouquin sur le Burkina Faso, c'est une ethnologue, en fait, de la région toulousaine, qui a réussi, franchement, c'est une gageure, elle a réussi, en fait, à relier la sorcellerie et la révolution au Burkina Faso. Voilà, ouais, mais voilà, et c'est un travail sérieux, hein, c'est pas un truc farfelu. Et elle a quand même eu, sur cet ouvrage d'ailleurs, le prix de l'Académie française, quoi. Donc elle a été couronnée par l'Académie française en 2021. Donc c'est pas un truc farfelu, quoi. Mais j'ai trouvé ça assez fantastique. Enfin, il y a un vrai boulot derrière, quoi. Voilà, on aura Jean-Pierre Langelier qui viendra nous parler de sa biographie sur Léopold Sédar Senghor. Mohamed, évidemment, Bougarsar, on en a déjà parlé. Nimrod, donc, qui vient du Tchad. Et puis Kouam Tawa, pardon, qui vient du Cameroun, qui est un des rares auteurs à vivre à temps complet, en fait, au Cameroun. Lui, il a fait le choix de vivre, d'écrire et de travailler, de vivre de sa plume et de travailler la littérature en restant au Cameroun. Voilà, donc là, on a réussi à le faire venir. Il est en résidence, en fait, en France. Après, il va faire une prestation d'animation, d'atelier d'écriture, etc., et de mise en scène à Avignon, et derrière il switch pour venir finir son séjour en France à Africajar. Et puis au côté de la BD, on a une liste assez courte cette année, mais on a, j'en parlais tout à l'heure, Christophe Ngalé Dimo et puis Nadège Guillou-Bazin qui viennent nous parler justement de leur ouvrage sur l'homosexualité féminine en Afrique, et on aura Fatih Kubica qui vient donc qui est du Congo et qui vient nous parler également de son dernier ouvrage.
Une programmation prometteuse, hein. Moi je vois, ouais, le chrono qui file en même temps. Voilà, on va être obligé de repousser peut-être les murs de cette édition. Régis Blanchard, responsable de la commission littéraire du Grain littéraire pour Africajar à l'instant. Christelle, je crois que on va s'accorder ce temps pour annoncer l'escale d'Africajar qui nous est proposée le 5 mars. De quoi est-il question? Je crois que c'est du conte, hein, mais j'en suis pas sûr.
C'est ça, donc la, ouais, toute première escale pour cette année, ce sera un spectacle de conte de bouche à oreille de Boubacar Ndiaye qui du coup aura lieu donc le 5 mars à l'école de musique de Cajar. Mmh. Donc moi je vous conseille de réserver tout d'abord, donc vous pouvez trouver toutes les informations sur nos réseaux sociaux, on va relayer l'info. Et puis après, niveau de tarif quand même, parce que c'est un point important, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, et sinon c'est 5€ par personne.
Gros boulot, hein, sur les réseaux sociaux, ça poste, hein. C'est le travail de Christelle Kuhn, chargée de communication pour l'association Africajar, africajar.com, pour retrouver les éléments de la programmation qui se façonnent petit à petit, et puis bientôt tout sera calé. On peut aussi réserver ses places, hein, là pour cette 23e édition, on passe par Festic ou directement on retrouve les liens
sur le site
africajar.com. Merci Régis et Christelle, on vous sent bouillonnant, hein, et ça fait plaisir de vous voir comme ça. Là on y est, 2022, c'est la ligne droite, hein, jusqu'au 21 juillet. Merci beaucoup.
Merci. Merci à vous.
À très bientôt.
CFM Villefranche, le mag.